9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire et le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. De parler d'Africolor ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous vous appelez pas Africolor, je le sais bien. Vous vous appelez Sébastien Lagarde et vous êtes le directeur de ce magnifique festival qui a un très beau nom puisqu'il s'appelle Africolor et il en est à sa 34e édition. C'est un rendez-vous incontournable des musiques traditionnelles et qui traversent le temps où se mêlent ces sons justement traditionnels aux musiques nouvelles. On voyage du Cameroun au Mali en passant par l'Algérie, des mélopées africaines s'installent donc en territoire francilien, ce depuis le 18 novembre et jusqu'au 24 décembre. Vous allez nous parler ce matin, Sébastien Lagrave, vous êtes directeur de ce festival Africolor, et vous allez nous parler de peut-être de sa longévité, parce que c'est pas rien quand même, un festival 34 ans déjà.
Oui, 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 c'est vrai que c'est un cadeau incroyable hein, d'avoir cette longévité. C'est un cadeau d'abord de la part du public qui est fidèle, de la part de nos partenaires, à la fois ceux qui nous aident et ceux qui nous accueillent, les différentes villes qui sont de plus en plus nombreuses depuis 1989 à vouloir faire partie de cette aventure tous les ans. Maintenant, on a 27 villes partenaires. On a commencé, c'était juste 3 jours autour de Noël.
Alors justement, j'ai le souvenir, je vous interromps, pardonnez-moi pour le plaisir d'avoir en écho justement ces toutes premières éditions qui étaient sur un week-end qui était à Saint-Denis
à Saint-Denis absolument
qui était à Saint-Denis et là le territoire quoi francilien voilà et c'est au-delà du public c'est aussi la qualité on va le dire quand même hein et cette prospection que vous faites d'aller dénicher des nouveaux artistes des nouveaux genres musicaux africains parce que c'est aussi ça le Africolor.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que on sait bien que le continent produit à une vitesse extraordinaire de nouveaux talents, de nouveaux artistes, j'allais dire tous les jours. Moi, ma mission, c'est d'être à l'écoute peut-être parce qu'on est 54 pays, des langues partout, des artistes extraordinaires. Donc, je ne peux que capter peut-être une petite partie de tous ces talents extraordinaires et essayer de construire avec eux une programmation ici.
J'ai le souvenir, voyageant au Mali et au Burkina, de par terre, à même le sol, donc des centaines de cassettes. Alors, des fois piratées, hein,
oui.
Vous le savez bien. C'est aussi ça l'Afrique, c'est. Et peut-être que dans ces piratés, dans ces cassettes-là, il y a des talents aujourd'hui. Ah,
complètement. Alors c'était ce studio mythique hein, qui s'appelait Mali Cassette à Bamako, où tous les grands artistes maliens ont tous enregistré. Alors maintenant, il a été un peu remplacé avec l'ère du numérique par la rue des téléchargeurs. La rue des téléchargeurs, les gens arrivent avec leur téléphone, ils payent 500 francs CFA, puis ils chargent le dernier titre de tel ou tel ou tel ou tel. Voilà, donc ça, on évolue, les pratiques évoluent maintenant.
Les pratiques musicales aussi, puisque j'ai en introduction, quand je rappelais qu'effectivement on passait de musique traditionnelle qui se mêle à des musiques modernes. Justement, ces talents, ces artistes que vous nous proposez dans cette édition d'Africolor, c'est des talents que vous avez dénichés vous-même. Vous êtes allé en Afrique de l'Ouest, vous êtes allé même un peu plus loin.
Alors moi, je me déplace quand c'est nécessaire, parce que il s'agit pas non plus d'être le Français qui va faire ses courses entre guillemets. Et c'est parce que ce serait une posture qui est pas la mienne. Et puis deuxième chose, il y a des questions écologiques aussi. Et donc je travaille avec beaucoup de collègues sur le continent africain qui sont des opérateurs, des programmateurs, des directeurs de festivals, qui ont des structures et aussi des associations de ressortissants ici, des gens qui habitent Montreuil, qui habitent Saint-Denis et qui me disent mais tu connais pas le dernier rappeur sénégalais à la mode, il a tant de fans sur Instagram, tu devrais aller voir. Et c'est comme ça aussi que les choses se font, même si il m'arrive évidemment de me déplacer et de construire des relations. J'allais dire des relations longues et des relations d'amitié avec plusieurs artistes, justement.
Et dans cette 34e édition, donc, vous allez nous proposer un certain nombre d'artistes, des artistes d'ici et de l'Afrique dans ces villes de la Seine-Saint-Denis essentiellement.
Oui, essentiellement, 70% en Seine-Saint-Denis. Sinon, dans le Val d'Oise, en Essonne, dans le Val-de-Marne et un peu dans les Hauts-de-Seine.
Et c'est des artistes, il y a des artistes qui sont d'ici donc.
Alors oui, je prends un exemple. La semaine dernière, samedi dernier, nous avons programmé une association d'Evry. Et donc, ce sont toutes des mamans. Ça s'appelle Evry Femmes d'Espoir. Elles sont nées ici et elles ont décidé de se réapproprier la culture de leurs mamans qui sont venues de la région de Kayes au Mali. Et elles ont fait tout un spectacle autour de la migration et du trajet de leurs propres mamans. Mais elles sont nées ici et elles ont fait un spectacle extraordinaire et très émouvant, justement.
Alors, quand on parle de musique d'Afrique, une question me vient, pas sociologique, mais m'intéressant à ces musiques plurielles, est-ce que il a fallu qu'elle s'impose en Europe, la musique africaine? Si on dit que la musique, elle est universelle, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que des fois, il y a des... pas des résistances à la programmer, à la découvrir, etc. Mais il a fallu qu'elle s'impose, vous pensez, ici, en France, en Europe, dans l'Occident?
Les gens, dans ce qu'ils vivent au quotidien, depuis très longtemps, elles sont là, les musiques africaines. Mais elles étaient dans les cafés de Barbès, quand s'inventait évidemment le Chaabi, autant à Alger qu'à Paris. Je pense évidemment à Cheikh El Asnaoui, qui est arrivé dès les années 30 aussi du côté de la chanson kabyle en France, et qui d'ailleurs est décédé à La Réunion, à Saint-Denis de La Réunion. Donc les artistes, ils étaient là, ils ont toujours circulé. Le combat, il a eu lieu pour imposer ces musiques-là, leurs artistes, sur les grandes scène dans les grands médias généralistes. Et c'est ça, c'est la reconnaissance, la visibilité. Et ça, c'est notre combat depuis 33 ans, justement.
Donc, on va écouter dans un instant des morceaux extraits de ce CD de l'édition 2022, donc de votre programmation. J'ai énuméré, voilà, 2-3 pays comme ça, Cameroun, Mali, Algérie, mais il y a d'autres pays africains.
Oui,
qu'est-ce qu'on entend? Quels sont, vous nous rapportez là de...
Alors, j'allais dire un des pays qui est présent cette année, notamment c'est le Sénégal, avec ce jeune rappeur du Sénégal qui s'appelle Samba Pedzi. Il y a aussi évidemment parmi les grandes artistes maliennes Fatoumata Diawara qui est avec nous, et par exemple aussi la jeune, on l'appelle la nouvelle Oumou Sangaré, Maïmouna Soumbounou qui sera avec nous, et évidemment on en parlera plus tard, Ali Amran qui est avec nous pour une aventure un peu spéciale. Donc ce sont tous ces pays avec lesquels on partage toutes ces soirées, justement.
Et ces soirées, ce public nombreux que vous retrouvez à chaque soirée, il est dans la diversité aussi, il est noir et blanc, si j'ai pu le dire comme ça, avec beaucoup de plaisir.
C'est notre mission. Notre mission, c'est que moi, une soirée où il y a un public, où il n'y a pas de mixité des publics, que ça soit les générations, que ça soit les origines, que ça soit l'origine géographique aussi, c'est-à-dire que les gens qui habitent peut-être le centre-ville de Paris, ils se déplacent pour aller voir quelque chose au-delà du périph, entre guillemets, comme on dit, eh bien que tout le monde découvre tout le monde, mais aussi que dans la salle, les gens se découvrent les uns les autres, que les gens découvrent des artistes, qu'ils découvrent aussi des façons de vivre les concerts, parce qu'on sait que nous, ici en Europe, on a eu tendance à mettre des barrières entre les artistes et leur public. Alors on met des barrières, on met des gens avec de la sécurité, on met de la sécurité dans les loges, donc les artistes peuvent plus simplement dire bonjour aux gens. Et ça a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Les gens étaient en cercle, les artistes étaient au milieu des gens. Et on essaye de restaurer cette façon de vivre les concerts, quitte à être peut-être un peu plus bruyant, quitte à danser, à se lever, etc. Et c'est ça qui fait Africolor, justement.
Et dans ces nouvelles générations d'artistes, ils continuent de s'emparer des instruments traditionnels et d'y ajouter la modernité, ou là...
Ils y reviennent.
Voilà. Parce que pendant un moment, on était très électrique, crois, en Afrique. Et puis, on avait... Bon, ça, c'est du passé. Voilà, c'est une tradition, certes, mais musicalement, on veut aller dans...
Oui, il y a eu un moment dans les années 90-2000 où les musiques urbaines du continent, quelles qu'elles soient, empruntaient beaucoup des sons aux USA. Et petit à petit, tous ces groupes-là se sont dit, mais en fait, notre tradition est en train de mourir aussi, et on y est attaché. Parce que ces jeunes de musique urbaine, ils étaient attachés aussi aux musiques traditionnelles, aux sons acoustiques. Et donc, ils ont remis petit à petit des rythmes comme le balar au Sénégal, comme le balani au Mali, comme d'autres rythmes du côté des Comores, par exemple, où ils ont remis des sons traditionnels dans le rap, notamment. Et là, on a vraiment des nouveaux sons depuis quelques années qui sont très intéressants dans ce mélange.
Il y a les sons, il y a les mots aussi, il y a les langues. Alors, on est aussi, vous l'avez rappelé, il y a plusieurs langues, voilà, le soniké, le bambara, et j'en passe, évidemment, je peux pas toutes les énumérer d'abord parce que je les connais pas, mais en plus parce qu'elles sont si nombreuses, mais on a, le public aura l'expression traduite de ces langues, on peut, c'est intéressant aussi les langues.
Oui, quand on... oui, complètement. C'est intéressant, si je prends, par exemple, on était sur les musiques urbaines, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de langues du continent. Je prends par exemple le Wolof, puisque la semaine dernière, on avait ce rappeur du Sénégal et ces deux rappeuses, Def Mamadef du Sénégal. Le Wolof est une langue qui a un flow pour le rap incroyable. Donc ce sont des langues qui sonnent incroyablement quand elles deviennent rythmiques. Par exemple, le Swahili, le Shikomori sont des langues qui sonnent très très bien. Alors après, ils mettent un peu des mots d'anglais, etc. Mais moi, j'ai toujours considéré qu'un artiste, même quand on le comprend pas, si c'est un grand artiste, on le comprend. Parce que au-delà de la barrière de la langue, il va nous faire passer quelque chose par son émotion, par ses mimiques, par son geste, par la musique. On va comprendre quelque chose de ce qu'il nous raconte au-delà des barrières de la langue. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce qui se passe parfois dans des concerts, justement.
Alors, le Africolor, 34e édition, a commencé donc le 18 novembre. Donc, il y avait des spectacles un peu partout. Mais il n'y a pas que des spectacles, il y a aussi des rencontres.
Oui.
Parlez-nous aussi des rencontres.
Alors, ces rencontres, elles viennent d'une des missions qu'on se donne, qui est une mission de transmission. Parce que quand on programme des musiques africaines, on programme des musiques qui ont un rôle au sein de ces sociétés-là depuis des siècles. Un rôle de mémoire, un rôle de médiation, un rôle de faiseur de paix. Certains artistes sont là. Et puis parfois, elles ont eu aussi des rôles politiques plus directs, hein, dans des contestations, par exemple, de certains présidents qui voulaient faire le mandat de trop, etc. Et donc, par exemple, les rappeurs du Sénégal, les rappeurs du Burkina Faso et dans plein d'autres pays ont été présents dans les manifestations pour contester un peu les dérives autoritaires de certains pays. Et donc, on a un devoir, nous, quand on les accueille, de restituer un peu au public ici le sens de ces musiques et leur inscription citoyenne. Et puis, on a une deuxième chose qui est de parler de la mémoire de ces pays-là. Et c'est là où on fait des rencontres autour de l'histoire et autour de la mémoire, justement.
On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin le directeur du festival Africolor, un festival nomade d'ailleurs justement, et on le retrouve dans un instant. Il s'appelle Sébastien Lagrave et il est directeur de Africolor.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre rendez-vous de Voix au chapitre. Je reçois ce dimanche matin Sébastien Lagrave, directeur du festival Nomade Africolor, un festival qui en est à sa 34e édition, je le répéterai jamais assez parce que je trouve ça magnifique, cette longévité, un festival qui envahit le territoire francilien, on l'a déjà dit. On vient d'entendre un premier morceau africain de Maïmouna Soumbounou. Elle va passer le 24 décembre au festival. Rappelez-nous dans quelle ville ?
Alors, ce sera à Montreuil, ce sera pour notre fameux Noël Mandingue, une soirée autour du Mali.
Et pourquoi Montreuil ? Parce que Montreuil est la capitale du Mali, une des villes, la énième ville du Mali, disent les Maliens et les Montreuillois aussi. Ils aiment à dire aussi que Mali est fortement présente. Je crois que la ville de Montreuil est même jumelée avec une ville du Mali.
Complètement, la ville de Yélimané. justement.
Ouais. Que nous dit Maïmouna dans cette de chanson? C'est aussi une audace d'une femme.
Oui,
qui...
c'est une des, c'est vraiment une des nouvelles stars. Hein. Et d'ailleurs, elle a participé, elle a été connue comme ça il y a 6 ans. Elle a fait un télécrochet qui s'appelait Mini Star, et elle a chanté les chansons d'Oumou Sangaré à l'époque, et Oumou l'a repéré, et on l'appelle là-bas la nouvelle Oumou Sangaré d'ailleurs. Et on entend vraiment dans sa voix une grande, grande maîtrise, hein, malgré son jeune âge, de vraiment du chant et des grands fondamentaux de la musique malienne. Moi, je l'ai vue aussi à l'œuvre, j'allais dire au quartier à Bamako, en train d'animer des mariages, des cérémonies. Elle sait tout faire. Elle est très sérieuse, et vous voyez un peu ce son un peu nouveau, qui est un peu électronique aussi. On voit bien ce mélange entre la tradition et la modernité chez elle.
Tout au long de ce festival, il y a une diversité de musique. Il y a un groupe un peu jazzy africain aussi qui va être programmé, s'il ne l'a pas été déjà.
Alors jazzy africain, j'allais dire peut-être que celui qui représente le plus le jazz dans cette programmation viendrait de lointains cousins qui viennent plutôt de la Caraïbe et de la Martinique et de la Guadeloupe, qui s'appelle Big In Jazz Collective. Et Big In Jazz Collective, c'est le rassemblement de peut-être les 8 meilleurs musiciens de jazz Guadeloupe, et alors je vais peut-être avoir des problèmes avec les autres, mais vraiment c'est la crème de la crème des instrumentistes, et ils ont décidé de revisiter tout le répertoire de la Big In, le répertoire traditionnel, et de le mettre à une sauce très très groovy et très jazz fusion. C'est un projet qui a plusieurs années maintenant, et qui est porté par d'excellents instrumentistes, et ça ce sera donc au Théâtre Gérard Philippe le 15 décembre.
Le 15 décembre, ouais. on écoutera ouais. ce morceau au cours de notre émission. Peut-être on va poursuivre encore en musique, mais vous avez rappelé tout à l'heure l'importance aussi de faire des rencontres avec le public. Il y a des actions culturelles qui vont être menées, oui. y compris dans le milieu scolaire, c'est pas rien aussi,
oui.
de dire aussi,
oui, c'est important.
Pas que la musique, mais dire l'histoire, comme vous l'avez évoqué.
Complètement. Par exemple, le 7 décembre, vous connaissez sûrement, puisqu'on est à la radio, Bertrand Dical, qui est le journaliste qui raconte l'histoire en chanson sur France Info. Et Bertrand Dical, c'est un grand, grand spécialiste des musiques antillaises, notamment, et un grand spécialiste de l'histoire des musiques dites de la créolité. Donc, il va faire une conférence au lycée Paul Éluard à Saint-Denis avec Marie-Josée Ali, qui a été aussi une grande présentatrice de télé, romancière. Et tous les deux, ils ont été très très volontaires et très engagés pour justement aller à la rencontre des lycéens. Pourquoi ? Parce que ces jeunes générations, elles ne connaissent pas,
leur histoire,
qui ne leur est pas enseignée très clairement. Les professeurs n'ont pas le temps, enfin, ou bien l'éducation nationale ne met pas en place les choses pour que le temps soit pris. Mais cette histoire-là, qui est notre histoire, qui est l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents et de nos grands-parents aussi, eh bien, nous on la prend en charge tant que c'est pas pris en charge ailleurs.
Absolument, parce que c'est une histoire commune, et puis elle a deux fonctions. En plus de ça, cette rencontre, elle a la fonction de leur faire connaître et puis de la valoriser d'une certaine manière, parce que qui ne dit pas l'histoire, c'est la nier, c'est ne pas la reconnaître d'une certaine manière.
Absolument. Et moi, j'ai été très touché. Il y a quelques années, je faisais une conférence sur les nouvelles musiques urbaines africaines, et une jeune fille me dit mais pourquoi vous, les Français, vous dansez sur nos musiques et vous nous rejetez nous? C'est terrible à entendre. À la fin de la conférence, je lui ai dit, mais voilà, ce que je vous ai montré, c'est que cette musique-là, elle vient de très très loin, elle vient d'une grande histoire des musiques. Et vous pouvez être fier de ces musiques-là, vous pouvez être fier de cette grande histoire-là. Et de repartir avec ce sentiment de fierté me paraît très très important, dans la construction de ces identités de ces jeunes-là, justement.
Et donc, il y aura cette conférence, et puis il y a d'autres conférences que j'avais repérées aussi, leur donner envie aussi de jouer cette musique là, voilà, de conservatoire, voilà, parce qu'ils sont pas, on pense que c'est pas notre musique, mais si, voilà, c'est la musique pour tout le monde, pour toute la classe, voilà, au conservatoire.
Exactement. Là, par exemple, ce matin à Bobigny, il y avait une artiste sénégalaise qui s'appelle Séni Camara, qui mène des ateliers pendant quasiment 6 mois, qui justement va faire découvrir tous les instruments du Sénégal, notamment la kora, les percussions, et ils vont construire des chansons ensemble avec une classe de troisième qui est en option musique. Et ça fait partie, ça, de donner l'envie d'aller à découverte de ces nouveaux répertoires, de ces nouvelles musiques, mais elles sont pas si, entre guillemets, ils les écoutent sur Spotify parce que quand Stromae fait des morceaux et que tout à coup vous entendez un peu une guitare un peu bizarre, ben on, il suffit de leur dire, ben vous savez cette guitare là, c'est de la rumba, ça vient de Kinshasa, etc., etc. Et petit à petit, ils se rendent compte que ah ces musiques là, oui, elles font partie de ce qu'ils écoutent au quotidien en fait.
Alors comme il y a beaucoup de rencontres, hein, on va inviter les auditeurs, les auditrices à regarder le programme de plus près. Et il y a une rencontre qui est intéressante, qui est aussi cette histoire des musiques en migration. Qu'est-ce oui. qu'on écoute dans l'immigration? Parce que c'est aussi la transmission de leur histoire d'exil.
Ah, complètement. Souvent. Je pense que le et ça c'est une rencontre qui est passée malheureusement, qui était le 19 novembre. Mais ce qui a été intéressant, c'est de voir comment les musiques se modifient quand les artistes partent en exil. Et puis parfois aussi comment les gens qui sont ici, qui sont les petits enfants des exilés, se réapproprient ces musiques et les modifient eux-mêmes. Et puis aussi parfois comment la musique peut soigner ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont en détresse, ceux qui étaient dans les camps de Grande-Synthe, les migrants qui étaient à Grande-Synthe. Et nous avons reçu Damien Carême, le député européen, qui a mis en place des outils culturels pendant ces longs mois d'attente pour permettre à chacun de vivre ensemble, autant que faire se peut, ces moments douloureux et d'essayer d'en parler et de poser des mots sur tout ça.
Justement. Alors, je crois qu'il y a un exemple qui est intéressant sur justement les jeunes issus d'immigration, artistes qui se réapproprient les chansons, c'est Zebda. Zebda a fait un album Origine contrôlée. Absolument. Qui est 12 chansons, des chansons kabyles avec leur authenticité hier et puis une certaine modernité, même si les paroles n'ont pas changé, mais une modernité musicale. Et puis c'est une manière de la montrer aussi à un nouveau public, quoi, puisque c'est des chansons.
Tous ces artistes des années 80, Zebda, Rachida, ont été des grands. Ils ont permis des grandes avancées dans la reconnaissance de ces musiques-là, et aussi des grands compositeurs, Slimane Azem, tous ceux qui étaient à l'origine de ces chansons que les gars ont remis un peu dans des rythmes plus modernes. Donc ça, c'est merci à eux. Alors que quand on sait comment ils ont commencé, quelqu'un leur avait donné les clés du MJC et une caméra en disant il y a un local, faites quelque chose. Et puis au départ, c'était pas du tout de la musique. Et puis finalement, ils ont dit allez, on va faire la musique.
Au départ, c'était des mots, c'était vite écrit au départ à Toulouse, c'était une association, il y avait des ateliers d'écriture, et puis l'écriture est devenue chanson, et les chansons sont devenues ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas pour le groupe Zebda, mais pour d'autres sites aussi comme ça, que ça s'est passé. On va entendre dans un instant un autre morceau musical, c'est Jupiter et West.
Et Hawkwest. Et Hawkwest. C'est un peu le grand groupe de la scène de Kinshasa, du Congo-Kinshasa. Là, vous allez entendre de la musique très, très urbaine de maintenant. C'est très nerveux, c'est très enlevé. Cette ville, ce pays qui est un pays...
Ça ressemble au pays, quoi.
C'est ça ressemble au pays, ça envoie, quoi. Voilà.
On l'écoute, vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre et nous parlons de Africolor, 34e édition. Ça se passe dans le territoire francilien de la Seine-Saint-Denis, en tout cas. Ça a commencé le 18 novembre et ce jusqu'au 24 décembre. On se retrouve dans un instant.
On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça.
Yeah.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Au cours de ce rendez-vous de Voix au chapitre ce dimanche matin, nous parlons d'Africolor. C'est la 34e édition. C'est un festival qui a lieu dans le territoire francilien. On donnera en fin d'émission le site de Africolor, si vous le voulez bien, Sébastien Lagrave, pour que tous les auditeurs auditrices soient au rendez-vous. L'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de l'oralité, l'histoire des mots. Et je lis là un adage célèbre. Alors, je ne parle même pas de Amadou Mpateba qui disait « Quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui s'écroule » parce que elle est magnifique et je la rappelle souvent ici à Voix au chapitre. Mais j'en retrouve une en tout cas qui est « Tant que les lions n'écriront pas leur histoire, on n'entendra que le point de vue du chasseur. »
Oui.
C'est important aussi cette phrase.
Je crois que ça raconte quelque chose de très très fort parce que effectivement le continent a été dépossédé de son récit et tous ces peuples ont été dépossédés de leur propre récit et même des outils de construction de ce récit, que ce soit l'histoire au sens de la discipline historique ou bien même des contes eux-mêmes ou de la tradition orale qui parfois a disparu avec les génocides, les massacres, les déplacements de population et les déportations. Donc tout ça fait que ce sont évidemment du côté des chasseurs, c'est-à-dire du côté des colons, et puis que les premiers récits se sont faits, pour le pire, hein, c'est-à-dire dans les expositions coloniales ici, et que petit à petit, des tentatives ici et là-bas, dans des relations de construction, avec notamment les premières écoles d'ethnologie et de sociologie, ont essayé de renverser un peu cette question-là, justement.
Photo de famille de Bindan Gazolo, oui. C'est quoi c'est...
Alors, photo de famille, c'est une de nos créations un peu qui essaye de traiter de choses graves de manière légère, puisque Bindan Gazolo est, comme il dit lui-même, un conteur urbain qui vient du Cameroun et qui est quelqu'un qui est à la fois très engagé sur toutes ces questions-là, mais qui fait ça avec une grande légèreté qui est celle du conteur, et qui va prendre un certain nombre de photos historiques, de fresques coloniales, comme si vous allez au musée de l'immigration, il y a des fresques partout coloniales, et même dans des mairies de la ville de Paris, vous avez ces fresques-là, et qui va faire un voyage, nous emmener dans un voyage conté, et qui va se servir du prétexte de sa famille pour nous raconter un peu comment sa famille est présente un peu dans toutes ces fresques, même si tout ça est de la fiction, et comment cette famille, elle est passée un peu inaperçue derrière les puissants et les grands monarques de ce temps-là.
Donc c'est un conte, c'est une histoire racontée.
Oui, oui.
Comme c'est si bien le faire de l'Afrique, souvent avec ces temps, où, enfin l'Afrique dans son ensemble, mais aussi d'autres continents, évidemment, où l'oralité, les Indiens, enfin je veux dire que on trouve de l'oralité, même en Europe, hein, pourquoi je place, parce qu'on parle d'Afrique, mais l'oralité est importante, et le conte, la transmission, les contes bretons, les contes vendéens, les contes de que sais-je, c'est aussi important qu'ils soient à nouveau racontés. On a d'autres rendez-vous de musicaux qui sont importants, ils le sont tous,
alors,
mais peut-être
oui,
donner envie aux auditeurs, auditrices de
vous retrouver. Parler, peut-être on peut se parler de Lala Fatma N'Soumer.
Alors on peut parler Lala Fatma N'Soumer, qui est une grande figure de l'histoire de la Kabylie, et elle va être racontée par Ali Amran.
Ali Amran et Evelyne Elgarbikaï, donc qui est comédienne, et Ali Amran qui sera à la guitare. Et donc c'est un duo sur scène, et Evelyne Elgarbikaï incarne à la première personne Fatma N'Soumer, qui revient nous raconter sa propre vie, son propre engagement, et évidemment à travers ça la entre guillemets la grande histoire de la colonisation française à partir de 1830 et jusqu'à évidemment la réédition des Kabyles à ce moment-là, et la réédition de l'ensemble entre guillemets, la création de ce qu'on appelle l'Algérie maintenant. Et ce duo on l'a écrit avec moi je l'ai pas écrit, mais enfin c'est Vladimir Cagnolari qui avait écrit beaucoup d'autres indépendances, beaucoup d'autres feuilletons sur les indépendances africaines, avec une durée qui est une durée d'environ une heure, aussi à destination à la fois des grands théâtres, comme on va le faire là, mais aussi à destination des jeunes générations, des collèges et des lycées, justement.
Alors, on va parler de Fatma N'Soumer du côté algérien, parce qu'elle est quand même une figure importante dans la société algérienne. féminine, féministe, oui. Puisque beaucoup d'associations portent, voilà, symboliquement le nom de Fatma Nsoumer, parce qu'elle est une figure guerrière, mais aussi de lutte, de d'émancipation. Oui. Elle porte tout ça, Fatma Nsoumer. Donc, oui. C'est ça qui est intéressant. Et puis, ça ne peut pas échapper aussi dans nos sociétés françaises féministes que elle peut être un modèle aussi, comme d'autres le sont, parce que le féminisme là aussi peut être universel. En tout cas, les combats des femmes sont d'ici ou d'ailleurs sont aussi les mêmes dans un souci de d'égalité, d'être voilà, dans une société qui soit plus juste, égalitaire entre les hommes et les femmes.
Tout à fait.
Donc elle était assez novatrice, Fatma Nsoumer, sur ça.
Je crois que comme les femmes de la Révolution française, dont la première revendication était « Donnez-nous des armes », la Fatma Nsoumer, sa revendication, c'était de participer à la lutte militaire. C'était très important. Bon, il est vrai qu'avant ça, elle s'était déjà révélée dans sa nature de combat, c'est-à-dire qu'elle avait refusé le mari qu'on lui promettait. Elle allait secrètement apprendre les versets du Coran. Donc c'est vraiment quelqu'un avec une trajectoire extraordinaire, et je trouve que c'est un modèle, effectivement. Et dans ces temps où on remet devant toutes ces héroïnes qui ont été qui ont fait l'histoire et qui étaient peut-être un peu oubliées ou laissées de côté parce qu'on mettait souvent les hommes, je trouve ça important de parler de Fatma Nsoumer, justement.
Et Fatma Nsoumer, c'est au programme donc de Africolor. Et ça va se passer quand?
Alors, ce sera le 21 décembre à la Marbrerie à Montreuil.
Le 21 décembre, vraiment un rendez-vous à ne pas manquer, comme beaucoup d'autres, mais comme après, il faut faire des choix dans l'exercice d'un programme aussi riche de où vais-je aller et quand. Donc, il faut, en tout cas, pour Fatma Nsoumer, ça va se passer à Montreuil le 21 décembre. Ouais. On va entendre, avant de se quitter, un dernier morceau.
C'est une jazz collective, justement.
Voilà, vous nous en avez parlé déjà. Mais c'est un, ouais, peut-être que, même si on parle plus de ce morceau, mais on en a parlé déjà de ce morceau, pas encore.
Alors, pas le morceau en lui-même, mais vous allez voir, vous allez reconnaître quelque chose dans ce morceau. La façon aussi, justement, dont ceux qui sont passés par la big in, par le jazz, etc., tout à coup se réapproprient un répertoire qui n'est pas le leur. Et c'est aussi une façon de faire des hybridations, des rencontres et de raconter quelque chose un peu d'universel.
Merci infiniment d'être venu ce dimanche matin nous présenter Africolor. Merci. Sébastien Lagrave. Je rappelle que vous êtes directeur du festival. Et c'est pas rien, c'est vraiment... Combien de concerts en tout?
Une bonne trentaine.
Une bonne trentaine. Donc, beaucoup de travail. Une année pour présenter, pour prospecter, pour voilà, chiner un peu tous les artistes. On peut dire chiner comme ça?
Chiner. J'aime bien ce côté artisanat des brocantes.
Voilà, c'est ça. Merci d'être venu à Beurre FM ce dimanche matin nous parler
de
Africolor. Africolor, d'ailleurs, on les retrouvera la semaine prochaine, puisqu'ils seront aussi dans le cadre de ce festival avec l'invité Ali Amran et aussi un des organisateurs du festival, si je peux le dire ainsi, Vladimir Kanyal-Niolari, qui va nous présenter les mercredis des indépendances. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.